L'affaire Gilles Deleuze.
Chapitre 1, épisode 8.
Tous s'étaient regroupés dans un sas rempli de fumeurs. Emma fixait le bout de ses doigts jaunis, tandis que l'on s'enfumait autour de ses boucles rousses. On entendait des ragots, on percevait des bouts cramoisis qui rougeoyaient, des papiers qui se consumaient et des cendres qui s'apprêtaient. Emma encapsulait la fumée, tentait des figures nasales, des petits ronds, la bouche en cul de poule. Elle manqua de s'étouffer. Tout le monde se retourna. Elle était encore plus pâle et roussie que d'habitude. Le goût acre, cette sensation pâteuse, ainsi que les pics de douleur qui tourmentaient son crâne, avaient neutralisé sa joie du matin. Elle s'enfonçait dans la lassitude. Il était 10h08. Les choses l'entouraient, semblables à des sables mouillés, au sein desquels les dernières lueurs de conscience s'étaient éteintes, soufflées comme des bougies. Il n'y avait plus que du donner. Elle sursauta lorsqu'elle s'aperçut qu'elle s'était presque brûlée au contact du mégot. Elle s'assit et sortit de sa poche arrière quelques feuilles pliées, les premières pages du tableau. Elle les parcourut en diagonale.
« Qu'est-ce que tu fais, Emma ?»
C'était l'homme de l'ascenseur qui s'était aventuré insidieusement dans ses environs. Elle plia le papier en affectant un air blasé. « Oh, rien, des factures. »«
Mauvaise nouvelle ?»«
Tu m'expliqueras comment des factures pourraient être une bonne nouvelle. »
C'est vrai que...
Leur match s'interrompit un instant. Il tenta une saillie provocante.
« C'est vrai qu'avec les 436 € qu'il te paie par mois, ça doit pas être facile. »
Elle le foudroya du regard et il décida de partir en fumée d'autres jeunettes plus affables. Il rebondissait, d'une phrase brillante lancée à droite, vers un sourire en coin dégainé à gauche. Il glissait et clignait de l'œil, pour finalement extirper un lapin de son chapeau.
« Vous savez qu'ils sont en train de lancer les formalités en cas d'autodafé de l'œuvre de Deleuze ? J'ai un ami qui travaille à l'incinérateur municipal. Ils ont déjà reçu tous les documents administratifs. »
Emma retourna dans son isolement et ferma soigneusement les écoutilles. Cette histoire prenait une tournure étrange. Plus elle feuilletait les pages de la table des catégories, plus elle se disait que D ne s'était en rien perdu dans l'œuvre de Deleuze. On aurait même dit qu'il avait bien rangé. Elle attrapa sur la page le couple abstrait « autrui » / « tout autre qu'autrui » entre parenthèses « complice » suivi d'un cousin éloigné « autrui » / « autre » au pluriel / « sujet » au pluriel. Dire qu'on rabâchait que le philosophe en question était un original, loin des problématiques traditionnelles. Emma avait, sous les yeux, en ce moment même, au milieu de toute cette fumée, la preuve du contraire. Elle en était sûre et certaine. Sa nièce passait en ce moment son baccalauréat. Emma s'était vue imposer la corvée des révisions. Sujet à traiter, la conscience de soi implique-t-elle la connaissance d'autrui ? Emma lui avait gribouillé des notes d'explications éparses, en bredouillant quelque chose à propos d'un nourrisson. Le ton était vite monté, et Emma s'était mise à fulminer face à l'incompréhension de sa nièce. Elle répéta donc son propos sur le bébé. A-t-il d'abord conscience de lui-même comme corps potelé, et prend-il ensuite connaissance de sa mère ? Si on a conscience de soi, alors on a connaissance d'autrui. Ou bien a-t-il d'abord une connaissance de sa mère à travers son absence, et ensuite, via ses propres braillements, conscience de lui-même. La conscience de soi présuppose la connaissance d'autrui. Sa nièce avait continué de la fixer comme un poisson-chat. Emma bondit soudainement face à une autre case de la table des catégories. Conscience synthétisant le donné, / conscience synthétisée dans le donné. Elle apercevait, à travers cette distinction grise et glacée, l'ombre d'une toute nouvelle perspective de pensée. Dans cette nouvelle histoire conceptuelle, il n'y avait pas d'abord un sujet, une conscience mettant en forme,
ou pêchant le donnet dans ses filets, mais l'inverse. Il y avait d'abord le donnet, toujours pris dans des sillons prédéterminés, autrui, dans des « on doit s'enfumer comme cela, puisque c'est ce que l'on fait ». Et ensuite, nous autres, plongés dans cet ordre des choses, nous y naissions comme des êtres assujettis. Des sujets. Elle ralluma une cigarette. Mais alors, avec un tout autre qu'autrui, comment cela se passait ? Les véritables complicités n'allaient-elles pas faire vaciller l'ordre établi ?